Bonjour à tous. Le SEO, ça bouge tout le temps, c'est clair. Et avec l'IA qui débarque, ça s'emballe. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui peut faire un peu peur, mais qui est devenu vital, l'audit SEO technique. On a mis la main sur des passages d'un article super intéressant. Audit SEO technique, clé de la visibilité 2025.
Oui, tout à fait. Et ce que disent ces textes, c'est que la visibilité en ligne en 2025, ça repose plus que jamais sur des fondations techniques solides. Vraiment solides. L'audit technique, c'est plus une option, c'est une nécessité absolue. Pour que les moteurs, surtout ceux qui tournent à l'IA, puissent, comment dire, bien comprendre et classer un site.
D'accord. Bon, alors, notre objectif aujourd'hui, on va essayer d'extraire l'essentiel de tout ça. Pourquoi cet audit est si crucial maintenant et quels sont les points de contrôle à ne surtout pas rater? Justement, pourquoi cette focalisation sur 2025? Et l'IA, qu'est-ce qu'elle change vraiment?
Alors, l'IA, comme le SGE de Google, la Search Generative Experience, elle ne fait pas que lire, elle essaie de comprendre, de synthétiser l'information. Donc, un site qui est techniquement un peu bancal, lent, mal fichu, c'est comme essayer de lire un livre en désordre. Ça va freiner le classement, bien sûr, mais ça risque aussi de, comment dire, fausser les infos que l'IA utilise pour construire ses réponses. Il faut se rappeler que début 2025 déjà, quasiment 14% des recherches affichaient des réponses générées par l'IA. Donc, il faut lui mâcher le travail en quelque sorte.
Ah oui, d'accord, je vois bien le lien direct là. Et les fameux Core Web Vitals, ils jouent quel rôle là-dedans?
Ah, ils sont au cœur du sujet. Ils mesurent l'expérience utilisateur, une chose que l'IA prend de plus en plus en compte. On parle de la vitesse de chargement, le LCP, de la réactivité de la page, l'INP, qui a remplacé le feed d'ailleurs,
oui.
Et de la stabilité visuelle, le CLS. Vous savez, quand tout se décale au moment où on va cliquer, très agaçant.
Ah oui, ça, l'horreur.
Voilà, un site qui rame, qui saute, ça pénalise le classement et ça frustre l'utilisateur. Donc l'audit, il sert à identifier ce qui bloque. Les images trop lourdes, les scripts qui ralentissent tout. Et il ne faut pas oublier non plus le Mobile First Indexing. C'est la version mobile qui compte pour Google. Point.
C'est vrai.
Et la sécurité HTTPS partout, c'est devenu un standard, un gage de confiance et un facteur de classement. Un site par en HTTPS aujourd'hui, franchement...
C'est presque suspect, oui. Compris. Donc, c'est la base pour être lisible et apprécié par Google et les utilisateurs. Mais si on rentre un peu plus dans le concret de l'audit, l'article mentionne des piliers. Ça recouvre quoi exactement?
Exactement. Ce sont les fondations. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle la crawlability et l'indexability. En gros, est-ce que les robots peuvent accéder aux pages et les comprendre? Donc là, on regarde le fichier robot.txt. C'est un peu le guide pour les robots. On leur dit où ils peuvent aller.
La porte d'entrée, quoi.
C'est ça. On vérifie aussi le sitemap.xml, la carte du site qu'on leur donne. On cherche les pages bloquées par erreur avec un noindex. On s'assure aussi que les redirections sont propres, pas de chaîne ou de boucle sans fin. Et on corrige les erreurs, genre les pages 404 non trouvées ou les erreurs serveur 5xx.
D'accord, donc vérifier qu'on donne bien la bonne carte et les bonnes clés dès le départ. Logique.
Voilà. Deuxième pilier, BUM. La performance, vitesse et Core Web Vitals, on vient d'en parler, optimisation des images, du code, CSS, du JavaScript, tout ce qui peut alléger.
Ok. Et la structure même du site, c'est un autre pilier?
Absolument. Troisième pilier essentiel, le maillage interne, c'est-à-dire comment les pages sont liées entre elles. Ça doit être logique pour guider Google et les internautes. On regarde aussi la profondeur du site. Idéalement, une page importante ne devrait pas être à plus de 3 clics de la page d'accueil.
Ah oui, pour que l'info soit accessible facilement.
Exact. Il faut aussi des URL claires, parlantes. Et puis, l'utilisation des données structurées, le fameux schéma.ord. C'est comme mettre des étiquettes invisibles sur les infos de la page, un prix, une note, un horaire, pour que Google comprenne tout de suite de quoi il s'agit. Et bien sûr, la compatibilité mobile est intégrée dans cette structure. Et un dernier point technique important, faire la chasse au contenu dupliqué involontaire.
Ah oui, comment ça?
Parfois, à cause de paramètres dans les URL ou parce que les versions HTTP et HTTPS coexistent, on se retrouve avec plusieurs versions de la même page. Il faut s'assurer qu'il n'y aura qu'une seule officielle et que le HTTPS est bien forcé partout.
D'accord, ça fait beaucoup de choses à vérifier. J'imagine qu'il faut des outils pour faire tout ça. On ne fait pas ça à la main.
Ah non, impossible. Heureusement, il y a des outils. Les gratuits de Google sont un très bon début. La Search Console, c'est indispensable, c'est le tableau de bord de votre site vu par Google. PageSpeed, Insights et Lighthouse aussi, pour tester la vitesse et les Core Web Vitals.
D'accord. Et pour aller plus loin?
Alors là, on utilise des crawlers, comme Screaming Frog ou Sitebulb. Eux, ils parcourent le site comme le ferait Google et ils listent tout. Les erreurs, les redirections, les balises, c'est très complet. Et pour vraiment vraiment savoir ce que fait Google sur le site, on peut analyser les logs du serveur. Ça montre quelle page Googlebot visite, à quelle fréquence, s'il rencontre des problèmes.
Ok, super intéressant. Bon, une fois qu'on a ce diagnostic, le plus difficile reste à venir, j'imagine. Appliquer les corrections.
Surtout si on n'a pas une grosse équipe technique derrière. Oui, c'est souvent là que ça coince. C'est le nerf de la guerre. La clé absolue, c'est de prioriser. On utilise souvent une matrice impact, effort, OEL. On s'attaque d'abord à ce qui aura le plus gros impact SEO positif pour le moins d'efforts techniques.
Logique, oui. Les quick wins.
Exactement. Et puis, la communication avec les développeurs, c'est crucial. Il faut réussir à traduire les besoins SEO en tâches techniques claires pour eux. Et surtout, il faut bien comprendre que ce n'est pas une action ponctuelle. Une fois les corrections faites, il faut suivre les résultats, voir si ça améliore les choses et prévoir une maintenance régulière. L'audit, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'un processus.
Donc, si je résume bien, en 2025, faire l'impasse sur l'audit technique, c'est un peu comme vouloir lancer une fusée super moderne, mais sans avoir vérifié les moteurs avant. Peu importe la qualité du carburant, le contenu, si la technique ne suit pas, ça risque de ne pas décoller ou de retomber très vite.
C'est une excellente image, tout à fait. L'audit technique, c'est ça. C'est s'assurer que les moteurs du site sont fiables, performants. C'est la condition sine qua non pour que tout le reste, le contenu, la stratégie de lien, etc., puisse vraiment fonctionner et répondre aux exigences des algos modernes, de l'IA et bien sûr des utilisateurs.
Voilà, qui donne à réfléchir, c'est certain. Peut-être une dernière petite idée à laisser mûrir pour nos auditeurs. Au-delà de la simple réparation technique, est-ce que cet audit, en nous forçant à regarder sous le capot, ne pourrait pas aussi ouvrir des portes? Révéler des forces ou des faiblesses de la structure qui pourraient inspirer de nouvelles idées de contenu ou une meilleure expérience utilisateur qu'on n'avait pas envisagée? C'est une piste à explorer.